Europe 1, la libre antenne, Olivier Delacroix.
Bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous avez passé une agréable journée, chers amis. Je vous dis ça tous les jours, mais sachez que cela vient du fond du cœur, car j'espère que vous avez passé une bonne journée et qu'elle fut légère, qu'elle fut lumineuse, qu'elle fut aérienne même, et que même si pour certains elle était un peu plus dure, vous avez su trouver comment vous faufiler dans ce quotidien pour que cette journée soit un peu plus belle que les autres. Vous êtes sur Europe 1, c'est votre libre antenne, comme tous les jours, 7 jours sur 7, à 23h jusqu'à 1h du matin. Ce week-end, vous retrouverez l'excellent Yann Moix, à partir de demain, donc 23h. Mais pour le moment, nous sommes ensemble jusqu'à 1h du matin. Et vous pouvez, bien évidemment, composer le 39-21, 50 centimes d'euros la minute. Vous nous écrivez au 7-39-21, suivi du mot « nuit », écrit en lettres majuscules, suivi d'un espace. Et puis, vous adressez vos messages en privé sur notre page Facebook où vous êtes. J'ai vu, c'est un petit peu mou en ce moment. Ça augmente tous les jours de 5 membres. Et alors, je vous invite à partager. Vous savez que vous pouvez partager sur votre page Facebook. Il y a une petite fonction « partager ». Faites-le parce que ça permet à certaines et certains de découvrir cette page Facebook. Donc, Olivier Delacroix, Yann Moix, la libre antenne Europe 1, où vous pouvez trouver des amis, échanger, et puis courir, prendre vos jambes à votre cou lorsque vous voyez des gens qui ne sont pas très gentils. Car il y en a, même qui disent des sottises sur moi, je vais vous dire. J'ai vu ça, ça m'a... Bon, écoutez, hein, c'est comme ça. On ne fait pas l'unanimité. Je plaisante, bien évidemment. Chacun fait ce qui lui plaît, vous le savez. Je vous le dis et vous le répète sur cette libre antenne. Alors, on a le droit d'aimer et de ne pas aimer. Vous nous écrivez aussi à libreantenne@europe1.fr, vos mails, et Florian et Julia, qui sont entourés ce soir, une fois de plus, du grand réalisateur Laurent Pelé, eh bien, vous répondront dans les plus brefs délais, chers amis. Pour le moment, votre libre antenne du jeudi, c'est parti.
Olivier Delacroix est à votre écoute sur Europe 1.
Et pour débuter cette soirée, nous accueillons Martine au 39-21. Bonsoir Martine.
Oui, bonsoir Olivier.
Bonsoir, d'où nous appelez-vous Martine ?
Alors, je vous appelle de Violaine, c'est-à-dire entre Béthune et Lens.
D'accord.
Pas très loin de Liévin, où hier soir Nicolas a parlé de cet assassinat.
Ah oui, d'accord.
Je sais pas si vous vous souvenez.
Oui, oui, bien évidemment, voilà. Je me souviens.
Je suis à une dizaine de kilomètres de chez lui. En
fait. D'accord, très bien. Cette belle région voilà. Du Nord.
Oui, c'est bien.
Vous allez à Lens de temps en temps ?
Oui.
Ouais. Non, je pense oui. À Lens parce qu'ils ont une belle équipe de football et il y a un peuple lensois oui. Qui suit cette équipe et je trouve que c'est un magnifique club avec une magnifique équipe
oui,
et avec
oui.
un engouement. Et, vous savez, c'est sans doute le seul club qui ressemble aux clubs anglais avec des chants. Et puis alors quand ils entament cette chanson-là,
les corons.
Ça me donne la chair de poule à chaque fois. Oui, je me réjouis oui. De voir ce club occuper les premières places de Ligue 1. Martine, pourquoi vous m'appelez ce soir ? Voulez-vous parler ?
Ben moi, je vous appelle, Olivier, au sujet du handicap invisible.
D'accord.
Voilà. Parce que j'ai subi ces derniers temps à plusieurs reprises. Alors que je vous explique, j'ai fait un AVC en 2010, hein, qui m'a valu ma retraite anticipée, enfin une longue maladie. J'étais soignante en maison de retraite. J'ai même intervenu, enfin plusieurs reprises sur vos sujets par SMS sur les maisons de retraite en disant que toutes les maisons de retraite ne sont pas les mêmes. Bon, alors cet handicap me coûte de la kiné tous les jours.
De l'acné.
Quand vous faites un AVC, C'est pas n'importe quoi. Donc j'ai fait cet AVC, j'ai fait ensuite de l'épilepsie sur séquelles d'AVC, hein, qui n'est pas rien. Donc j'ai cette carte d'invalidité, cette carte prioritaire, cette carte de stationnement. Je suis une personne de 67 ans, très bien mise de sa personne, je suis coquette, je suis comme beaucoup de femmes aiment l'être, quoi.
Aime bien être jolie, charmante.
Voilà, malgré son handicap. Bon, c'est comme ça, j'ai toujours été comme ça, ça ne change rien. Et je me suis rendue samedi dernier dans un magasin de travaux, pas loin de chez moi, je ne donnerai pas l'enseigne, vous allez comprendre. Hein. Et je voulais des renseignements sur les granulés appelés, ce qui n'est pas tellement... qui prenait les deux minutes du temps.
Oui, les granulés appelés.
Oui,
vous pouvez m'expliquer ce que c'est, en fait.
C'est du bois de chauffage, en fait.
D'accord.
Du bois de chauffage. Donc, je voulais me renseigner du prix parce que je n'arrivais pas à les joindre au téléphone. Mm-hmm. Donc, c'était marqué sur leur site. Hein, il fallait se déplacer sur place. Donc, je me rends là-bas. Il y avait une queue de 15 personnes à l'entrée. Ça bouchonnait à l'entrée. Donc, gentiment, je m'avance. Je sors ma carte. Je fais quand même pas mal de vertiges, hein, qui exigent ma kiné, quoi. Et donc, j'avance, je demande pour passer. Je me fais intercepter par un homme qui me dit, je n'ai pas l'air d'une handicapée, moi aussi j'ai mal au genou, qui me répond.
Oh, mon Dieu.
Je lui dis, mais monsieur, vous ne connaissez pas mon handicap. Voilà. Et... Donc, cet homme ne voulait pas me laisser passer. J'ai un peu forcé le passage, enfin j'ai avancé, tout en laissant cette file sur ma gauche, et moi, j'arrivais sur la droite. Un deuxième monsieur m'a intercepté. « Oh, ben, vous savez, madame, des malades comme vous, » il me dit. Je n'ai toujours rien dit. J'ai toujours avancé. Je suis tombée sur un troisième monsieur qui me dit... Vous en jouez vraiment avec votre carte.
Qu'est-ce que c'est des agréables, mon Dieu ?
Je continue toujours avec cette gorge serrée, quoi, parce que bon, j'en ai encore mal depuis une semaine. Et là, il y a un troisième monsieur qui s'est intercepté et ils s'y sont mis à quatre sur moi, quoi. Donc, je me suis effondrée. Je suis partie en larmes.
Personne n'a pris votre défense.
Personne, ni leurs épouses, ni personne. Personne. Je me suis effondrée. Le gardien est venu, il m'a fait asseoir. Et puis, je suis repartie comme ça. C'est pas la première fois que je subis ça. Je ne sais pas s'il y a une. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui doivent le vivre. Alors, je suis désolée si je marche encore, malgré mon AVC, mais c'est comme ça. Mais ça me touche profondément, ça me touche.
Bien évidemment.
Vous allez sur un parking, vous descendez de la voiture, bon, forcément, vous êtes blonde, on vient regarder à votre voiture pour voir si vous avez cette carte. Des choses comme
Alors,
ça.
Je vais vous dire, on vient regarder si vous avez cette carte parce que vous êtes une femme seule. Par contre, le nombre d'abrutis qui se garent sur ces places handicapées, on ne vient pas trop les chauffer,
non.
Vous voyez, pour peu qu'ils aient un air un peu mal embouché. Non, c'est fou parce que ce que vous nous racontez traduit l'état de notre société, en fait. C'est fou.
Écoutez, justement, je vous écoutais, vous parliez de Facebook, je suis sur votre page, je suis abonné sur votre page. C'est aberrant ce qu'on peut dire.
Oui, vous avez vu, en fait, bon...
Les gens sont
merci d'en parler, parce que...
Les gens sont très méchants.
Mais oui, les gens sont enfin, pas tous, vous voyez, mais il y a de moi que c'est arrivé, oui. Et nous nous réjouissons tous, je vous le promets, moi le premier, que Yann Moix, qui est un nom, qui est un homme brillant, qui représente oui, ce sûr. Qu'il représente, qu'on oui, aime oui. ou qu'on n'aime pas.
Moi, perso, j'adore. Il a beaucoup d'humour, je l'adore.
Voilà, ce que je veux dire, c'est que moi, je me suis réjoui de son arrivée, mais les gens ne peuvent pas s'empêcher de comparer Yann Moix et Olivier Delacroix, qui n'ont pas grand-chose à voir ensemble.
Oui.
Ils ont sans doute... cette répartie, ils ont sans doute cette bienveillance vis-à-vis de l'autre, mais Yann Moix, c'est Yann Moix, c'est Olivier Delacroix, c'est Olivier Delacroix. Et au milieu de ça, alors c'est une minorité dont on parle sur le nombre de messages et le nombre de personnes qu'il y a sur ce groupe, mais je vous avoue que c'est ma belle-mère qui est très attentive à tout ça, parce que je vous avoue que je n'y vais jamais, et qui m'a dit... Alors elle m'a interpellé sur une question de... Un soir, j'avais été un peu... Voilà, ma mémoire avait dépassé ma pensée vis-à-vis du corps des enseignants, en fait. Et finalement, je ne m'étais pas expliqué précisément. Je m'en suis excusé le lendemain. Mais j'allais sur Facebook juste pour voir de quoi il s'agissait, parce qu'elle n'avait pas su vraiment m'expliquer le fond.
Bien sûr.
Voilà. Je suis tombé sur, sur un post qui en a entraîné... derrière 240, un poste où il y avait une comparaison entre lui et moi. Et c'est vrai que j'ai eu le tort d'ouvrir, parce que c'est inutile, finalement, de regarder ça. C'est inutile parce que...
C'est blessant,
c'est très blessant.
C'est blessant.
Ça m'a blessé. Mais
c'est bien fait pour moi.
C'est bien fait pour moi. Et pour vous, puisque revenons-en à vous, c'est vous qui comptez là ce soir, c'est la même chose en fait. C'est ces personnes mal intentionnées, méchantes en fait, parce que
bien sûr.
Il faut y aller. Et en plus, aujourd'hui, si je ne m'abuse, on va dire que vous êtes allé soit à Jardiland, soit chez Favennec, soit au Paradis du Jardin, soit à la Grainerie de Madame Schmoll. Mais il y a quand même plusieurs places handicapées dans tous ces établissements aujourd'hui.
Oui, bien sûr, partout maintenant.
Voilà, partout. Donc, vous voyez, avant j'ai le souvenir de 2-3 places handicapées. Alors qu'aujourd'hui, on peut, chez Grand Frais, par exemple, où je suis allé à l'Evreux le week-end dernier, il doit y avoir mais 15 ou 20 places, les places les plus proches, au nombre de 15 ou 20, dans une station-service sur l'autoroute de Normandie. 10, 15 places les plus proches pour les handicapés. Donc, et c'est normal. Et les gens qui vont guetter ça, ce sont les mêmes qui, sur Internet, prennent du temps pour dire des conneries et des méchancetés.
Mais là, ce problème de... Comment je vais dire d'insulte, parce que pour moi, ça a été une insulte envers ma personne, de dire « vous en jouez de votre carte d'handicapé ». J'estime que quand la MDPH vous donne une carte, c'est pas juste avec un certificat médical. Il y a un gros dossier à l'appui.
Mamie Tam Tam, vous voyez, nous dit 39-21, le monde des humains est déglingué. C'est inadmissible de voir des personnes qui sont autant malveillantes envers des personnes qui ont des souffrances. J'ai vécu cela avec mon cancer, qui ne se voit pas en plus. Courage et amour, nous dit Mamie Tam Tam. Louise nous dit beaucoup trop de haine sur cette page Facebook. Alors, vous voyez, de la Libre Antenne, c'est dommage, en fait. Moi, je vante souvent cette page Facebook et je ne suis pas trop d'accord avec Louise sur cette page. Il y a de temps en temps une dizaine ou une quinzaine d'idiots et d'idiotes aussi qui sont virulents et j'ai remarqué qu'ils ont un mépris pour les autres et jouent les intellectuels de chez Lidl, en fait, parce que ce sont vraiment... C'est souvent au ras des pâquerettes. J'entends par là, vous voyez, que j'ai lu entre l'inculte Olivier Delacroix et le cultivé Yann Moix, il y a 3 galaxies. Voilà le genre de commentaires. Ça qui ne me blesse pas, vous voyez. D'autres m'ont blessé, en fait, mais pas celui-là. Ben c'est pareil, en fait. Je vais vous dire, Martine, les gens qui viennent vous agresser à la caisse pour voir votre carte ou vous faire des réflexions, vous savez pourquoi, souvent ? C'est parce qu'ils n'ont pas envie d'attendre. Parce qu'ils n'ont pas envie de faire la queue. Et parce qu'il y a aujourd'hui, malheureusement, dans notre société, des gens qui estiment que les handicapés sont des assistés.
Voilà.
Et on est arrivé à un point de non-retour, déjà, dans la bêtise, dans la méchanceté. Mais la méchanceté est souvent consolidée par une bonne dose de bêtise. Mmh. Et en fait, si vous écoutez la Libre Antenne souvent, je cite mon père qui me disait qu'un con ne sait pas qu'il est con. Donc, un con qui ne sait pas qu'il est con va surenchérir dans la connerie. Vous en avez sur cette page Facebook de la Libre Antenne, vous en avez au supermarché, vous en avez dans cette jardinerie, qui pense que ça amuse Martine, ça amuse Mamie Tam Tam, ça amuse les personnes qui sont porteuses d'un handicap d'avoir cette carte.
Mais le problème, c'est quand vous le subissez régulièrement. L'année dernière, au moment des fêtes, moi, j'avais l'habitude de toujours aller dans un magasin, toujours sur Lens, dans le centre commercial, de me rendre régulièrement. Mais j'y vais en semaine l'après-midi. Donc, il n'y a personne dans ce magasin. Donc, pas besoin de sortir la carte. Vous comprenez, je passe. Bon. Et cette fois-là, j'y suis allée au moment de Noël. Et il y avait pas mal de déco, il y avait des tas de choses, et puis il y avait des queues jusque dans la rayon, des files d'attente. Je me dis, bon, présenter ma carte, je passe. J'arrive à la caisse, il y a un couple, la dame me regarde, me dit, ah ben vous avez une carte. Et moi aussi j'en ai une. Moi je lui dis gentiment, sortez-la madame, si vous avez votre carte. Elle me dit, je ne l'ai pas, je l'ai chez moi. Moi, je lui ai répondu, je ne sais pas si j'ai bien fait ou pas, bah, écoutez, si vous voulez la mettre dans un cadre, votre carte, c'est votre problème. Je lui ai sorti. Il y a la caissière qui m'a...
Vous avez eu raison de vous défendre.
Oui, mais il y a la caissière qui m'a regardée et qui m'a dit, ça textuellement, je vous le dis, mais elle me dit, vous êtes handicapé, vous ? Comme ça, vous êtes handicapé, vous ? Parce qu'elle me voyait régulièrement. Vous savez ce qu'elle m'a dit ? Prêtez-moi votre carte, ça me rendra bien des services.
Prêtez-moi votre carte ?
Ça me rendra des services.
Eh ben.
Je suis rentrée, j'ai fait un mail à ce magasin. Alors, comme elle avait son nom sur son badge, ça a été plus fort que moi, mais bon, ce magasin il a fermé peu de temps après, donc... Mais voilà, ce qu'on peut subir, parce que... Ça fait mal parce que, bon, quand vous vous battez pour tenir sur vos deux jambes, moi, je ne laisse rien paraître. J'ai mes soucis tous les jours, c'est galère. En plus, j'ai ma fille qui a un cancer, qui est atteinte d'un cancer. C'est quelque chose de très difficile à vivre aussi bien pour elle que pour moi. Et je dis la méchanceté des gens, c'est... On vit dans un système et je trouve que depuis le confinement, les gens sont encore plus méchants.
Il y a une peur qui habite vraiment beaucoup de gens et je pense que cette peur, ils sont effrayés par l'avenir, ils sont effrayés par leur situation.
Je ne sais pas.
Sûrement à juste titre, vous pouvez être effrayé aujourd'hui lorsque vous avez du mal à boucler les fins de mois, que vous êtes vous-même parfois, vous savez, les gens qui vous agressent. Sont eux-mêmes des gens qui se font agresser.
Oui.
Il y a souvent des gens qui reproduisent le schéma.
Oui, mais enfin, il y a le respect avant tout.
Bien évidemment, bien évidemment.
Moi, j'ai travaillé en maison de retraite, écoutez, pendant 15 ans. Mais moi le respect pour les personnes âgées, moi, j'étais respectueuse. C'est, je ne sais pas, c'est dans mon... Je suis comme ça, quoi. Nous, on a été élevés, moi, mon papa était mineur de fond, on était 7 enfants à la maison, et voilà, je sais pas ce qui se passe dans ce monde, enfin, je sais plus.
C'est ce qui se passe dans ce monde, je vous dis, c'est on a peur de l'autre et on n'attaque pas celui dont on a peur. On s'en prend au plus faible.
Oui, mais pourquoi faire mal ?
C'est ce qui s'est passé avec vous. Pourquoi ? Parce que là, d'un seul coup, vous êtes, aux yeux de ces personnes, une profiteuse, une assistée. Vous êtes quelqu'un qui bénéficie d'aide, alors que eux, non.
Non, mais bien
évidemment, Martine, ce que je vous dis, c'est ce qu'ils pensent. Bien évidemment, oui. Aujourd'hui...
Moi, j'ai ma retraite.
Vous savez,
on a tous,
dans nos familles respectives, tous, des personnes qui ont un handicap.
Bien sûr.
En tout cas, dans cette régie, tous dans cette régie, on a des membres de nos familles qui ont un handicap, nécessitent des aides, qui nécessitent des protections, puisque une personne handicapée est naturellement diminuée. Elle peut être amenée beaucoup plus rapidement à être dans des situations compliquées, délicates. Donc, la question ne se pose pas pour la grande majorité des gens, Martine. Et c'est ça, ce à quoi vous devez penser ce soir, c'est à tout cela. Parce qu'il y a pour beaucoup de gens, cette carte, elle ne pose aucun problème. Aucun problème. Vous savez, c'est comme tous ces gens qui pensent que les maux de la France sont dus à ceux qui ont la peau différente que la peau blanche. C'est tellement facile de remettre sur les plus démunis et sur les plus pauvres la faute. J'ai observé tellement de gens qui, à aucun moment, ne se remettaient en cause. Et pourtant, Dieu sait s'ils avaient des façons de fonctionner qu'il aurait fallu détricoter et il aurait sans doute fallu les aider à comprendre qu'ils fonctionnaient à l'envers. Mais toutes ces personnes qui vous agressent à la caisse, qui sont homophobes, qui sont transphobes, qui sont racistes, sont des gens qui fonctionnent, qui dysfonctionnent, sont des gens qui ont peur, en fait. Donc, tout ça, c'est malheureux. Mais je ne veux pas que vous soyez triste pour ça, Martine, parce que ça n'en vaut vraiment pas la peine. Je pense que...
Quel point je me demande si je vais encore sortir cette carte, quoi.
Mais il faut sortir cette carte, Martine.
Ça me fait peur.
Mais
c'est pas la première fois.
Vous savez, la prochaine fois que ça arrive, Martine, la prochaine fois que cela arrive, vous faites appeler le responsable du magasin. Vous avez des droits. Cette carte, elle représente les droits que vous avez, Martine.
Et vous savez
combien ça a été compliqué pour des gens avant vous d'obtenir ces droits. Il a fallu se battre, il a fallu militer, il a fallu faire tout un tas de choses pour que les personnes porteuses de handicap aujourd'hui soient protégées dans ce pays. Et ça marche pas trop mal, on va dire. Même si... Malheureusement, pour des situations extrêmes, certains souffrent encore d'un manque d'aide, en tout cas d'aide correspondant à leur handicap, parce que parfois, le handicap est tellement lourd qu'il nécessite des frais importants, conséquents. Mais il ne faut jamais avoir honte de sortir cette carte, jamais. Mais bien évidemment, c'est blessant, bien évidemment. Mais j'espère que ça vous a fait du bien d'en parler, en tout cas.
Oui.
J'espère que vous aurez vraiment le réflexe, si vous êtes embêté la prochaine fois, de demander à la caissière d'appeler le responsable du magasin. Vous savez, Martine, qu'un geste comme celui-ci, il est répréhensible devant la loi.
Je sais, j'ai mon gendre, justement, qui est gendarme.
Ben oui.
Il me dit c'est un genre de discrimination.
Ah, mais c'est pas un genre. S'il est gendarme, il faut qu'il enlève le genre et qu'il dise que c'est une discrimination.
Lui, il m'a dit que j'aurais pu rester dans le magasin et appeler la police.
Exactement. Et je ne vous dis pas que la personne qui vous a fait ça aurait été en prison, mais elle aurait pu obtenir une amende ou un rappel à la loi.
Elles étaient quatre. Elles étaient quatre pour moi. Quatre personnes.
Mais vous auriez dû appeler le responsable. Voilà.
C'est pas n'importe quoi.
Quatre hommes. Mais en réunion, en plus, comme ça, ils sont passibles d'une amende plus forte, en tout cas d'une peine plus forte. Mais il ne faut pas se laisser... En fait, dans ces cas-là, il faut garder son calme.
Oui.
Garder son calme, respirer et suivre la démarche dont on se parle ce soir. C'est gentiment demander à la personne qui est à la caisse d'appeler le responsable. Et croyez-moi qu'il est obligé de venir, le responsable, dans ce genre d'incident.
De toute façon, la prochaine fois que j'irai dans ce genre de magasin, je demanderai au vigile de m'accompagner, tout simplement, jusque l'accueil. C'est peut-être aussi ce qu'il faut faire quand il y a du monde. Je me dis, pourquoi pas. Tout au moins une personne pour m'accompagner jusque l'accueil, pour éviter les insultes, parce que c'est...
C'est inadmissible que vous ayez des insultes.
J'étais effondrée, j'étais en larmes, et pas moyen de me calmer, pas moyen. Je ne contrôlais plus rien.
Vous ne devez plus laisser faire ça.
Chose, on... Oui.
Vous ne devez plus laisser faire ça.
Pour revenir à autre chose, on avait échangé il y a 2 ans ensemble. Je ne sais pas si vous vous souvenez de moi, que mon beau-frère s'était fait renverser par une voiture. Par un chauffard.
Alors, j'ai eu plusieurs témoignages allant dans ce sens, hein, Martine, donc il faut que vous me remémoriez.
Si j'avais même fourni là un article de journal, le monsieur avait pris la fuite, il n'avait pas de permis de conduire sur l'état de stup.
Oui, d'accord.
Si vous vous souvenez, il avait même subi 1 an avec sursis. Et il y avait plusieurs personnes qui m'avaient dit de faire appel. Donc, le procès doit se faire la fin d'année.
Non, je...
Mon beau-frère est décédé depuis 2016. Non, ça ne vous revient pas, peut-être?
Non, ça ne me revient pas.
Vous avez tellement du monde aussi. C'est possible.
Bon, et en fait, il était décédé, votre beau-frère?
Oui, bien sûr.
Et le chauffard a pris combien, en fait? Il a été emprisonné?
Ah non, avec sursis, non. Rien.
Avec sursis, d'accord.
Ouais. Ah non, avec sursis, en fait, mon beau-frère traversait la rue. Il est arrivé, il l'a renversé. Il ne s'est pas arrêté. Voilà, mon beau-frère a passé au-dessus de son capot. La police l'a retrouvé 2 jours après. Comme il a dit lors du procès, en fait, il a vu mon beau-frère se relever. En fait, avec une nuque brisée, il aurait eu du mal à se relever, d'après l'autopsie. Et il était sous l'effet de stup et pas de permis de conduire depuis 6 ans.
Ça ne ramènera pas votre beau-frère, bien évidemment. On a un SMS d'une auditrice qui nous dit « Bonsoir, je suis maman de jumelles qui ont 25 ans aujourd'hui. Lorsque j'étais enceinte, en 1995, j'avais un accès prioritaire aux caisses des magasins, postes, banques. Ce n'était pas un handicap pourtant, mais je me suis fait insulter à plusieurs reprises et été accusé d'être favorisé. » Vous voyez,
voilà.
En 1995, voilà. Donc il y a 27 ans.
Oh là là.
Fanny vous dit que c'est le reflet de cette société qui se déshumanise. Mais oui. Il faut beaucoup de courage et de volonté pour faire face à tout ça, Martine. Et on va conclure sur ce SMS de Fanny, en vous souhaitant bien évidemment bon courage. J'espère que réécoutez le podcast demain, si vous en avez la possibilité.
Oui,
écoutez-vous et j'espère que ça vous donnera la force de garder la tête haute. Surtout, vous savez, quand je vous disais tout à l'heure que parfois, quand on lit des choses comme ça sur Facebook, et encore une fois, je vous dis, c'est bien fait pour moi, puisque si vous y allez, vous trouvez obligatoirement. quand, oui. quand vous êtes une personnalité publique, c'est obligé que vous ne fassiez pas l'unanimité. Mais soit, je le sais, j'y suis allé, j'ai ramassé. Peu importe. Mais ce dont il faut être sûr, Martine, comme vous l'êtes et vous devez le rester, c'est que vous êtes porteuse d'un handicap et que cette carte, elle est légitime, totalement légitime.
Bien sûr, bien sûr.
Et que personne n'a à vous le contester. Donc, vraiment, je vous engage la prochaine fois à respirer, rester calme, vous voyez, détendu. Et puis, lever la tête et puis demander à la personne qui est à la caisse d'appeler le responsable. Croyez-moi, la prochaine fois que vous retournez dans ce magasin, si vous faites ça, plus personne ne vous embêtera. Parce qu'un responsable de magasin, c'est très bien qu'il ne peut pas avoir plusieurs incidents de la sorte. Parce qu'en France, le handicap est protégé. Et lorsque on agresse quelqu'un qui est handicapé, même verbalement, mais c'est quelque chose qui ne passe pas du tout, croyez-moi. Donc j'espère que vous saurez vous le rappeler la prochaine fois, Martine. On vous embrasse bien fort, et puis on vous souhaite bon courage, et merci d'être fidèle à la Libre Antenne de Repas.
Merci Olivier, et bonsoir à tous les auditeurs, et je remercie tout le monde.
Je vous en prie. Au revoir Martine, on vous embrasse.
Au revoir.
Leclerc.
Le goût du frais, ça se défend tous les jours.
Oh, la belle tarte aux pommes, c'est pour fêter quoi ?
La gourmandise, le bonheur, la vie.
Mais dis-moi, c'est bien 2,99€ la tarte aux pommes ?
Oui.
Donc c'est surtout pour fêter les petits prix.
Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc.
Du 27 septembre au 2 octobre, tarte 6 à 8 parts de 600 grammes fabriquée en magasin. Offre disponible dans les magasins disposant d'un rayon pâtisserie, modalité magasin participant sur www.e.leclerc. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés et sucrés.
Faut-il voyager pour être heureux ? Venez découvrir la nouvelle exposition événement de la Fondation Groupe EDF à Paris. Installations, peintures, vidéos, photographies, 32 artistes contemporains français et internationaux vous invitent à réfléchir sur votre conception du voyage. Réel, virtuel ou imaginaire. Réservez vos places gratuitement sur fondation.edf.com.
La Libre Antenne d'Europe 1. Pour dialoguer avec Olivier Delacroix, envoyez le mot « nuit » suivi de votre message au 7 39 21.
75 centimes plus coût du SMS.
Il est 23h41, vous êtes sur Europe 1. Si vous nous rejoignez maintenant, c'est la Libre Antenne jusqu'à 1h du matin. Et vous pouvez composer le 39 21, chers amis. Nous sommes là pour vous écouter et bien évidemment, vous êtes chez vous ici. On accueille Céline maintenant au 39 21. Brigitte, pardonnez-moi, Florian m'a...
Oui, bonjour.
Excusez-moi,
bonjour,
Brigitte.
Non, il n'y a pas de souci.
Parfois, Céline, avec Florian, on s'en mêle les pinceaux.
Oui, mais Brigitte, Céline, c'était très très bien aussi. Hein.
D'accord.
Bon, c'est pas
grave.
Je peux
vous appeler Brigitte, hein, si vous voulez.
Comme vous voulez.
Bon, comment allez-vous, Brigitte ?
Eh bien, écoutez, en fonction des événements qui alimentent nos vies, pas toujours comme on voudrait.
Oui.
Donc, j'expose la situation.
Mais oui, avec plaisir, je vous écoute.
Oui, oui. Donc, je vais prendre un peu les choses depuis le début parce que c'est un peu compliqué en
oui.
fait. Hein. C'est une personne qui est assez proche, en fait, que je connais depuis longtemps, qui. Je me garderai bien de me positionner par rapport à cette relation, par sécurité, par respect, voilà. Donc c'est une personne au décès de son père. En fait, la famille, une partie de la famille, avec l'aide de la commune, fait interner cette personne
oui.
pour avoir la main mise sur une tutelle et sur l'héritage. Et cette personne a passé 2 mois en hôpital psychiatrique avec une sortie difficile parce que je pense que ça marque un individu. Et puis surtout une sortie parce que les personnes ont considéré justement la situation de l'héritage et de l'internement crapuleux, en fait.
Oui. Alors, ce que je ne saisis pas, c'est l'internement crapuleux, oui, c'est ça, crapuleux, et l'héritage, puisqu'il n'était pas mort, vu qu'il était interné, cet homme.
La personne décédée était le père de cette dame qui a été internée.
D'accord, ok.
Donc, au décès du père, on a interné la fille parce que ça permettait de prendre des retards sur les documents.
Oui, ça préparait de magouiller en toute tranquillité.
Voilà.
On va appeler un chat.
Voilà, et de mettre cette personne sous tutelle, c'était bien pratique pour mettre la mainmise sur
les biens du papa.
Les biens du papa.
D'accord.
Donc, à partir de ce moment-là, il y a eu une sortie et après le décès de cette personne, donc un voisin a commencé à faire des constructions sauvages, sans permis, à coller à un mur de propriété qui date du 19e,
oui,
et des constructions qui n'ont pas été faites dans les règles de l'art,
oui,
et donc qui détruisent le bien parce que étant accolé sans les gouttières et sans les sous-sols faits dans les règles de l'art, des arbres poussent et traversent, transpercent un mur de meulière et en chaux sur une quarantaine de mètres quand même, voire plus.
Hein. Oui.
Et donc font que ce mur s'effondre et que le fait que la personne, la dame qui a été internée, s'en plaigne régulièrement auprès de la commune font qu'on la menace constamment de la remettre en hôpital psychiatrique.
D'accord.
Donc elle est privée de ses droits, sachant que on peut aussi apprendre par divers biais et diverses personnes qui en ont fait les frais que cette commune magouille beaucoup, oui, avec l'immobilier. Et comme de par hasard, le voisin qui pose problème est dans l'immobilier. Sachant que ce voisin a détourné les eaux de la ville pendant 4 ans, inondant le terrain et le garage de la dame en question,
oui,
sans qu'elle puisse avoir gain de cause, sans qu'elle puisse avoir non plus les remboursements des huissiers qui ont fait état de la situation, que cette personne qui a construit sans permis a été très peu inquiétée par la commune, puisque la commune a quand même récupéré des dommages et intérêts pour construction abusive,
oui,
sans tenir compte que les constructions abusives ne sont pas faites aux normes et qu'elles détruisent la propriété du voisin. Donc je pense que quand une commune récupère et constate la fraude et qu'elle récupère elle-même de l'argent, je pense que son devoir, c'est aussi de faire respecter l'état de la construction afin que ça n'endommage pas la propriété de la voisine. Donc ça, ce n'est pas fait. Quand il y a des documents qui sont envoyés, des courriers pour faire justement mettre le dossier à jour et que la mairie se ressaisisse de son manquement, c'est lettre morte et c'est des menaces. À ce jour, aujourd'hui, alors je vous ai parlé des destructions, des détournements d'eau du voisin pendant 4 ans, des constructions frauduleuses, des menaces de mort aussi de la part du voisin, des menaces de venir mettre le feu à sa maison, compte tenu qu'il est absolument soutenu par la commune.
Oui, puisque il se sent tout puissant.
Voilà, c'est un enfant du pays, apparemment. Et donc, même si la personne qui a la maison à côté, hein, qu'on a interné, est du pays depuis fort longtemps aussi, ce monsieur a tout pouvoir, en fait, de faire ses exactions, puisque de toute façon, il reste dans l'impunité. Il a, du reste, je fais une parenthèse, il a loué son rez-de-jardin à un locataire qui est hyper violent, qui menace la dame de porter plainte parce que le mur s'effondre, que ça serait à cette personne qui a 85 ans à refaire le mur pour 20 000 euros, parce que c'est le coût que coûteraient ces réparations, compte tenu qu'il faudrait entièrement le démolir pour refaire. En fait, l'idéal, c'était de démolir les constructions abusives parce qu'elles ont été mal faites, et refaire entièrement ce mur. Sans être certain que le désordre ne se reproduise pas, puisque le désordre appartient quand même à ce voisin. À l'heure actuelle, il y a un locataire donc, qui est au rez-de-jardin, qui loue donc, l'appartement à ce propriétaire malhonnête. Et ce locataire donc, veut porter plainte contre cette dame et la menace de la faire dégager, parce qu'elle est trop vieille, qu'elle a fait son temps, qu'elle doit laisser la place aux jeunes, et qu'il allait s'occuper particulièrement de son cas. Et donc, quelqu'un de très violent, qui est reconnu violent de par la gendarmerie, du reste, la mairie ne fait rien. Et à savoir aussi qu'à ce jour... a été envoyé un courrier à une personne venant... En fait, un courrier est envoyé à la présidence, à Madame Macron et à Monsieur Macron, expliquant les désordres que cette personne rencontrait sur plusieurs situations difficiles. Lettre absolument convenable qui a été nommée sans être signée comme étant un envoi de la personne qui a été internée, ça fait 30 ans, hein, passé 2 mois. Donc ce courrier donc a été renvoyé à la préfecture et la préfecture a lancé a renvoyé à la mairie de cette commune une demande de placement d'office de nouveau. Donc, je pense qu'il serait intéressant de savoir qui, de nouveau, a tout intérêt à faire interner cette personne, sachant qu'il y a à peu près 6 ou 7 ans, cette personne... sa banque a reçu un acte de décès alors que cette personne est toujours vivante, ce qui a bloqué le compte. Donc je pense qu'on s'acharne énormément sur cette dame qui forcément est fatiguée, qui forcément va s'exprimer avec plus de stress qu'on peut mettre sur le dos de peut-être de la folie, je ne sais pas. Je pense que cette commune a des manquements au niveau de le travail qu'elle devrait accomplir pour protéger ses administrés et que bien au contraire on découvre, on apprend que tel citoyen de la commune, suite au décès de sa mère, que la commune lui a détourné un terrain, qu'on apprend par une société des eaux de la ville de Paris qui se rend au domicile de cette dame pour faire constater les désordres de détournement des eaux du voisin, qu'une amie n'a pas pu acheter une maison sur la même commune parce que l'agence immobilière magouille et magouillerait avec la mairie. On apprend d'un autre côté que des gens qui décèdent, on leur rachète le terrain en transformant le plus pour l'acheter à 12 euros le mètre, en faisant croire aux vendeurs que ça ne vaut pas plus et qu'on rechange le plus comme terrain constructible pour le partager avec 3-4 personnes de la mairie pour construire quelques maisons dessus et en partager au moins 3, que ces personnes de la mairie travaillent entre cousins, cousines et avec la préfecture et que les enfants, les petits-enfants sont tous, comment dire, on pose des associations pour personnes âgées, que des immeubles sont achetés en commun aussi dans le sud de la France, qu'il y a beaucoup, beaucoup de magouilles, en fait, et qu'il y a eu pas mal de suicides, hein, notamment...
Vous énumérez beaucoup de choses, Brigitte. On a compris que finalement, vous énumériez toutes ces malversations qui sont visiblement... fait par la mairie du village ou de la ville que vous habitez. Une mairie qui lorgne sur les biens des uns, et en tout cas de ceux qui sont les plus fragiles.
Absolument.
Ou en tout cas
oui.
Qui vont mourir.
Trois générations de maires qui sont intéressées par la propriété de cet ancien monsieur décédé.
D'accord. Bon, parce que vous nous parlez de choses, mais vous ne rentrez pas dans... Vous voyez, c'est compliqué de comprendre. Enfin, on a saisi qu'on avait affaire à une mairie qui était peu scrupuleuse et qui pouvait détourner des courriers, qui pouvait fermer les yeux sur certaines malversations. Maintenant, j'aimerais savoir comment vous comptez vous battre contre ça, dénoncer ça, en fait, parce que vous ne pouvez pas, maintenant que vous êtes au courant de tout ça, on ne peut pas laisser ça comme ça.
Alors, il y a eu des interventions de fait, c'est-à-dire appel à journalistes d'investigation qui en auraient un peu. Le problème, c'est que ces personnes se renseignent auprès de la mairie, qui ne manque pas de dire que la personne qui se plaint n'est pas nette, qu'elle a été internée et qu'elle est mythomane. Donc, il y a un lâcher-prise à chaque fois.
Un lâcher-prise, c'est-à-dire ?
Ben, c'est-à-dire que les journalistes renoncent.
D'accord.
Il y a un gendarme qui s'est occupé de l'affaire, qui n'a pas réussi à aboutir alors qu'il était absolument volontaire et convaincu de la situation, et comme par hasard, qui a été muté.
D'accord. Pourquoi vous ne dénoncez pas ce soir clairement le nom de cette commune ? Okay, parce qu'on ne va jamais y arriver, vous n'allez jamais y arriver. Si,
hein, parce que je pense que là, et compte tenu de la nouvelle du jour...
Qui est la nouvelle du jour ? Quelle nouvelle ? Parce que vous m'avez dit beaucoup de choses.
Un internement d'office.
Oui.
Une nouvelle demande d'internement d'office.
Encore une nouvelle ?
Parce qu'une demande d'internement d'office par la préfecture.
De cette même dame ou d'une autre ?
Pour cette dame.
D'accord. Parce que de votre point
pour
de vue...
Pour cette dame, pourquoi ? Parce que une lettre qui a été envoyée à M. le Président a été renvoyée à la préfecture, qui la préfecture juge que ce courrier nécessite l'internement de la personne. Alors que le courrier, moi je l'ai vu, on me l'a envoyé. Le courrier ne pose aucun problème, ni pour la personne en tant que danger pour elle-même, ni pour d'autres personnes, mais qui peut-être craignent d'être inquiétées.
D'accord.
C'est probable.
Alors moi, ce que je vous conseille par rapport à tout ça, parce que je comprends que vous puissiez être mal à l'aise, hein, d'être... esselé, hein, visiblement, vous êtes plusieurs à connaître ces malversations ou vous êtes...
Il y a de nombreuses personnes, mais il y a de nombreuses personnes qui s'en moquent. Il y a des personnes qui en profitent.
Là, alors j'ai bien compris qu'il y a,
parce
bien évidemment...
Il y a un profit sur personnes âgées et affaiblies.
Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est d'écrire une lettre au défenseur des droits en dénonçant...
C'est fait déjà. Bah, c'est fait déjà.
Il faut que vous insistiez. Il faut que, vraiment, si on ne vous répond pas, eh bien, il faut que vous rééditiez cette lettre et que bien évidemment, vous essayiez de réunir le plus de personnes avec vous et peut-être essayer de vous grouper pour dénoncer ces malversations. Parce que si personne ne fait rien, en tout cas si la presse s'est cassé les dents, si un gendarme s'est cassé les dents, je pense que ça va être compliqué de mener à bien cette enquête. En tout cas, on vous souhaite plein de courage, Brigitte, et puis ne manquez pas de nous tenir au courant. À bientôt. Il est minuit passé de 4 minutes. Vous êtes sur Europe 1 et si vous nous rejoignez maintenant, vous êtes bien sur votre libre antenne jusqu'à 1h du matin. Vous pouvez composer le 39-21, 50 centimes d'euros la minute, petit disque d'accueil musical d'Europe 1 et vous appuyez sur le 1 pour parler à Florian ou à Julia. Vous continuez à nous appeler, vous continuez aussi à nous écrire comme vous le faites très nombreux ce soir au 7-39-21 suivi du mot nuit, écrit en lettres majuscules suivi d'un espace. Et puis, il y a toujours notre adresse mail libreantenne@europe1.fr où vous nous adressez vos mails ainsi qu'à l'équipe de Nyan Mouax dès ce week-end à partir de 23h demain, chers amis. Pour le moment, nous accueillons Céline au 39-21. Bonsoir Céline.
Bonsoir Olivier.
Bonsoir, je vous en prie, d'où nous appelez-vous et quel âge avez-vous, Céline ?
Alors, j'ai 43 ans, j'appelle Duvar.
Voilà,
très la bien. Côte d'Azur, mais je ne suis pas vraiment dans la Côte d'Azur, je suis Centre-Var, moi, plus exactement.
Centre-Var, d'accord. De quoi voulez-vous nous parler, Céline ?
Alors, je vais essayer de parler le plus clairement possible, mais... Depuis un petit moment, nous vivons un calvaire parce que nous avons un enfant handicapé. Je rebondis un petit peu sur le témoignage précédent. Le handicap, il y a 80% des handicaps qui sont invisibles et ils ne sont pas forcément reconnus par les institutions.
Pas forcément reconnus, ah oui.
Voilà, pourtant ils existent et je peux vous dire que pour les aidants, c'est très, 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 très compliqué. Voilà, donc la pauvre dame qui se fait embêter aux caisses, je comprends tout à fait, parce que moi, j'ai eu droit avec mon fils. Voilà. Donc, pour synthétiser, alors, je ne peux pas tout dire, je préfère être claire d'entrée. J'ai fait appel, donc il y a une procédure judiciaire qui est en cours, donc je ne peux pas tout dire.
Oui.
Je ne peux pas tout dévoiler. Pour le début, en fait, au mois de mai, j'ai été obligée de sortir mon fils du collège. Il était en 5e Ulysse parce qu'il a des difficultés. Hein, voilà, il est reconnu par la MDPH. Il est atteint d'une maladie génétique rare qui s'appelle le 22Q11.
Le 22Q11, non, c'est la première fois que j'en entends parler.
Voilà, et pourtant, ben, y a une naissance sur 4000. Hein. En France.
D'accord.
C'est une maladie qui est très très mal diagnostiquée. Vous pouvez être porteur de la maladie sans déclarer la maladie ou la déclarer plus tard. Et il y a énormément de symptômes. Voilà. Et de conséquences après sur la vie. Nous, on le sait depuis qu'il a 3 ans et demi.
Oui.
Il a cette pathologie-là parce qu'il est né avec des gros problèmes de santé. Il m'a fait des arrêts cardiaques et respiratoires dans les bras, donc j'ai dû le réanimer. Même si ça fait 13 ans que c'est arrivé, c'est toujours douloureux.
Oui.
Voilà. Et là, donc, j'ai été obligée de le sortir du collège au mois de mai parce qu'il s'est fait harceler par 3 gamins. Et le collège a soi-disant fait ce qu'il fallait, sauf que ça a continué. Et que mon fils est arrivé au collège avec un couteau de cuisine, voilà, pour se protéger. Donc, j'étais obligée de le sortir du collège pour sa propre sécurité à lui. Puis, je voyais bien qu'à la maison, ça n'allait pas. Il était vraiment pas bien. Et alors, je ne cautionne pas du tout avec mon mari. On ne cautionne pas du tout le fait qu'il ait pris un couteau de cuisine pour se protéger. Hein, ce n'est pas ça.
Évidemment.
C'est juste que sa maladie provoque des troubles de la schizophrénie.
D'accord.
Voilà. Donc j'ai
il s'était
suite...
saisi d'un couteau de cuisine, mais cela faisait partie de...
son mécanisme de
son
défense,
mécanisme
en fait,
de, défense,
de se dire, voilà, de dire, bah, tu vois, toi, tu m'embêtes, parce qu'en fait, il a une voix nasonnée, il parle énormément du nez,
oui,
dû à sa pathologie, et bah, il en avait marre des moqueries, forcément, c'est, on rentre dans l'âge bête, hein, on va dire ce qui est, hein, l'adolescence, hein, c'est l'âge bête, donc forcément, oui, tout travail et tout, c'est compliqué, puis lui, c'est même pas un hypersensible, c'est plus que ça. C'est une horreur, hein. Pour lui, la sensibilité, c'est des enfants qui n'ont pas confiance en eux, donc le moindre petit truc qui vous paraît anodin, ben, pour eux, c'est une montagne. J'ai toujours dit et clamé haut et fort que mon fils avait cet handicap-là, qu'au niveau des institutions, dès qu'il se passait quelque chose, qu'il fallait me le dire pour que je puisse désamorcer la bombe en amont, pour éviter justement d'en arriver à ce qu'il a fait là. Donc j'ai de suite été voir mon médecin traitant, qui par bonheur est un médecin roumain, mais qui a beaucoup voyagé et qui connaît cette maladie, parce qu'elle est reconnue aux États-Unis, reconnue en Hollande, mais en France, voilà, il n'y a rien du tout. Donc sa maladie, en fait, il y a beaucoup de... Enfin, il y a plusieurs maladies en une, pour simplifier un petit peu. Mon fils est atteint d'autisme, donc l'autisme, tout le monde en parle,
oui,
mais on va pas le dénoter dans la maladie de mon fils, enfin, sauf ceux qui connaissent cette pathologie. Voilà, il y a de la trisomie 21 aussi qui est sortie, il avait une fragilité osseuse, c'est pour ça qu'on est parti dans le Var pour qu'il puisse avoir... comme il ne fixait pas le calcium sur les os, il lui fallait énormément de soleil pour que le calcium se fixe. Donc la Côte d'Azur, voilà, hein, on a choisi cette destination pour lui aussi. Donc cette année, après cet incident, donc mon médecin m'a fait un certificat médical, il a ausculté mon fils et a dit qu'il fallait l'hospitaliser d'urgence parce qu'il il avait des troubles du comportement, voilà, et que ça en devenait dangereux pour sa santé. Donc, je l'ai enlevé du collège, je l'ai gardé à la maison, je faisais un petit peu de devoirs sans trop non plus, parce qu'on était en train de tester, tester. C'est pas vraiment le mot, c'est voir quels médicaments pouvaient faire effet sur lui, parce qu'on est malheureusement obligé de donner des neuroleptiques. Alors oui, c'est des médicaments qu'on donne à des adultes, mais dans des cas comme mon fils, la pathologie de mon fils, malheureusement, ça se donne à des enfants, même à partir de l'âge de 10 ans, et voire même avant, s'il y a des troubles psychiques. Voilà. Donc on a dû lui donner des neuroleptiques. J'ai eu j'avais une réunion pédagogique avec le collège le 10 juin, avec eux, je leur ai dit, écoutez, je ne sais pas si je vais venir parce que mon fils ne va pas. Et un petit peu avant 14h, je les appelle pour leur dire, je ne viens pas. Et là, mon fils en a profité pour partir, a fait une fugue. Parce que tout ce qui est rapport au collège est devenu phobique pour lui, du fait que c'était le lieu de son agresseur. Et que l'agresseur, lui, n'a rien eu et lui a été puni. Voilà, il l'a ressenti comme ça. Donc il a fugué et du coup j'ai préféré aller chercher mon fils que d'aller à cette réunion, parce que de toute façon vous avez beau dire que en me renseignant auprès de professionnels, hein, il faut qu'il soit dans un centre, soit dans un IME, dans un institut médicalisé éducatif, soit dans un ITEP, donc c'est un institut thérapeutique éducatif pédagogique où il a tout le suivi qu'il lui faut, voilà, où il est encadré par des éducateurs et non des professeurs qui ne sont pas formés à ça. Et donc, bon, on ne m'écoute pas parce que je paraisse pour la mère poule, sauf que je ne suis pas du tout, mais ce n'est pas grave. Et donc, mon fils a fait une fugue, j'ai dû appeler la gendarmerie pour qu'il vienne. Et entre-temps, du coup, le collège a fait un signalement préoccupant, soi-disant de maltraitance, du fait qu'on donnait des médicaments à mon fils. sachant que ça fait quand même 2 ans qu'il était dans le collège et qu'ils étaient au courant qu'il avait cette pathologie. J'ai été gentille parce
Pardonnez-moi, mais à quel niveau et comment peuvent-ils se permettre de faire un signalement par rapport à des parents qui ont un enfant qui est porteur d'un handicap et en plus qui souffre de schizophrénie?
Oui.
Bien évidemment qu'il a un traitement, cet enfant. Donc, d'où, par quel système, par quelle réflexion?
Oui, par quelle réflexion ils peuvent se permettre de faire
oui,
ça?
Oui, ben, c'est ça qui me... Que je ne comprends pas.
Je vous retourne la question parce que, vous voyez, dans cette histoire, je ne comprends plus rien. Je vis vraiment un calvaire. On vit un calvaire avec mon mari parce que ce n'est pas tout. Parce que suite à ce signalement...
Ce signalement, pardonnez-moi Céline, soyons précis, ce signalement, il dit quoi précisément en fait?
Alors, il s'inquiète de la déscolarisation de mon enfant, alors qu'ils ont le certificat médical qui dit que mon fils ne peut pas retourner au collège suite à des troubles du comportement et qu'il doit être hospitalisé avec tous les articles de loi qu'il faut. Mon médecin a bien établi. Et une suspicion de maltraitance du fait que je lui donne des médicaments qui n'ont rien à voir avec la... Enfin, soi-disant, d'après...
Mais comment le savent-ils? Comment le savent-ils? Vous...
Je suis quelqu'un de trop honnête et que je dis les choses. Je leur ai dit, je suis obligée de lui donner des neuroleptiques pour qu'il puisse décompresser qu'il puisse... c'est la maladie qui veut ça.
Bien évidemment, Céline. Et ces neuroleptiques, ils vous ont été diagnostiqués. Enfin, sa maladie est prescrite par votre médecin. Donc,
c'est ça.
On marche sur la tête, on est d'accord.
Ah oui, mais s'il n'y avait que ça encore. S'il n'y avait que ça.
Si je résume bien, le collège donc, a fait un signalement sur vous, donc, parents maltraitants, parce que vous donniez des médicaments prescrits par votre médecin à votre fils qui souffrait d'autisme avec des passages de schizophrénie. Hein.
Voilà. Et par-dessus, l'ASE s'est greffée.
Oui.
Donc l'aide sociale à l'enfance, pardon.
Voilà l'ASE.
On
va inventer un coup de trompette pour l'ASE à chaque fois, parce que qu'est-ce qu'ils ont fait, l'ASE, dans tout ça?
Si vous saviez. Mon mari était en train de changer de travail. En fait, une autre société l'a recruté. Donc, c'était ses 10 jours de vacances pendant un an. Ben, on a passé 10 jours à aller à l'ASE, à témoigner. Nous, on y va parce que trop bon, trop con, en parlant poliment, on y va. On va dire que notre fils a une pathologie, donc voilà. Donc, on me demande des examens, donc je donne. Sauf que je donne, au lieu de donner une feuille qui, pour moi, ne paraissait pas nécessaire dans le sens où quand on n'est pas scientifique ou qu'on n'est pas concerné, on ne peut pas comprendre ce qui est. J'ai donné un compte-rendu de consultation et de suite au diagnostic de cette pathologie. Sauf que les assistantes sociales voulaient à tout prix le caryotype. Le caryotype, c'est la formule scientifique qui dit, enfin, de la maladie. Et je suis désolée, je ne suis pas scientifique. Moi, quand je vois écrit 22Q11.2 fiche patati patata, je ne comprends rien à ce qui est écrit. Je pense qu'on est un peu beaucoup dans ce cas-là, sauf si on est scientifique. Et donc, elles m'ont reproché de pas donner, de faire de la rétention de documents. Voilà. En fait, elles ont fait un rapport sur nous, mais complètement. C'est un truc de fou. Parce que du coup, on est passé en audience très rapidement devant le juge. Entre-temps, mon fils a refait une autre fugue. Le 24 juin, donc 15 jours après la première, parce qu'on avait changé de traitement du fait qu'un neuroleptique ne lui convenait pas par rapport à sa pathologie, ça se saignait du nez énormément, donc il fallait lui en donner un autre. Donc on était entre la fin d'une molécule et le début d'une autre molécule, et il a fait une nouvelle fugue, et là, on est parti l'amener aux urgences pédopsychiatriques, sauf qu'à Toulon, Sauf que, en fait, si vous voulez, pour aller aux urgences pédopsychiatriques à Toulon, vous devez y aller du lundi au vendredi entre 9h et 17h. Avant, vous ne pouvez pas. Après, vous ne pouvez plus. Et le week-end, il n'y a pas d'urgence. Voilà, le 24 juin, c'était un vendredi. On est arrivé à 14h30 aux urgences pédopsychiatriques. À 16h, on voyait l'heure tourner avec mon mari. Personne venait nous voir. Alors, je suis d'accord qu'un enfant qui se soit cassé une jambe, un bras, n'importe quoi, ouvert, passe devant mon fils. Mais mon fils était aussi en urgence vitale parce qu'on était, on est tous les deux anciens rugbyman, donc on est un petit peu costaud. On va dire, et on l'avait calé entre nous deux parce qu'il avait qu'une envie, c'était s'enfuir. Donc imaginez-vous de rester pendant quasiment 2 heures à coller à votre fils pour éviter qu'il parte. C'est une horreur. Et déjà, demander de l'aide, parce que vous ne pouvez pas, en tant que parent, subvenir à ses besoins, parce que ben là, c'est psychique, c'est psychiatrique, et je suis que maman, mon mari et que papa. On n'est pas des professionnels, donc on va demander de l'aide. Et là, les assistantes sociales encore de cette grande institution qui est la protection de l'enfance nous ont dit qu'on avait abandonné notre fils et nous ont fait retirer l'autorité parentale jusqu'à l'audience devant le juge. Donc en fait, nous n'avons pas vu notre fils depuis le 27 juin. Okay. Voilà. Et le pire, c'est qu'ils ont enlevé aussi notre fille de 17 ans, enfin qui va avoir 17 ans dans quelques jours.
Mais non.
J'ai pas pu passer l'anniversaire de mon fils, c'est 14 ans. Alors il y avait quelque chose qui était très important pour lui, et pour moi aussi, parce que ça lui faisait plaisir, c'est qu'il était en pleine croissance et qu'il n'était pas loin de me dépasser. Et on n'a pas pu vivre cette étape ensemble, à se dire... Enfin, qui me disent, tu vois maman, je suis plus grande que toi maintenant, t'as vu, hein, t'as vu, je vais pouvoir te manger la soupe sur la tête. Vous voyez, c'est des petits trucs, c'est ridicule, mais c'est quelque chose qui lui font tellement du bien à lui, parce que c'est un cœur pur. Quand je vous dis la trisomie 21, c'est ce côté-là qu'il a de la trisomie 21, des enfants qui sont purs, qui sont... C'est des choses, mais voilà. Donc du coup, ils nous ont enlevé nos enfants. Ils nous ont enlevé notre fille aussi, qui va avoir 17 ans le 12 octobre. Donc, je ne peux pas passer les anniversaires avec mes enfants. Je n'ai pas pu faire la rentrée. Et pour combler le tout, j'ai ma famille, au lieu de m'aider, de me dire, parce que ça fait plus d'un an que je suis en souffrance avec mon fils, en dépression, parce que c'est très, 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 très compliqué à gérer sa maladie, m'a planté un couteau dans le dos. Et les assistantes sociales ont chargé ma sœur et son compagnon d'être la famille d'accueil de mes enfants. Et la juge, après m'avoir dit des horreurs, a décidé de placer mes enfants du 8 juillet 2022 jusqu'au 31 juillet 2023 sans avoir de contact avec eux.
Quelles horreurs vous a-t-il dit, ce juge ou cette juge ?
Alors que j'étais une mère complètement barrée, que j'avais mis le couteau sous la gorge des médecins pour dire qu'il fallait qu'il marque que mon fils ait cette maladie-là. Oh bah ouais, comme si je la connaissais. Que je ne pouvais pas vivre sans que mon enfant ait une maladie.
Mais en gros, on vous a un peu accusé du syndrome de Munchausen, non ?
Oui.
D'accord.
Alors qu'il y avait toutes les preuves, il y a toutes les preuves scientifiques et tout.
Qu'est-ce que votre médecin a fait dans tout ça ? Est-ce qu'il a été consulté dans cette décision ?
Non.
Mais pourquoi ?
Mais parce qu'on s'en fout de toute
au
façon.
Nom,
le
au,
médecin,
oui, mais au nom de quoi on ne consulte pas le médecin qui suit ? Depuis combien de temps ce médecin suivait votre enfant ?
Ben, ça fait 2 ans, plus de 2 ans, 2 ans et demi qu'il est qui nous connaît, le médecin, en fait. Voilà.
Mais qu'il suit votre fils ?
Oui.
D'accord. Cet autisme dont vous parlez, cette schizophrénie qui vient de son handicap, et qui sont, je suppose, des épisodes de...
Oui, c'est des traumatismes qui ressortent. Voilà.
Cela a bien été diagnostiqué par quelqu'un ?
Alors, Le problème, c'est que... Alors, je me suis mise en relation avec... Il y a une plateforme qui s'appelle Communauté 360 qui aide les personnes handicapées et les aidants.
Oui.
Donc, bon, moi, forcément, j'ai tapé celle du VAR. Et j'étais en relation aussi avec le réseau des maladies rares des Bouches-du-Rhône, parce qu'il n'y en a pas dans le VAR, qui m'ont mis en relation avec le centre Génopsie qui se trouve à Lyon, en banlieue de Lyon, et qui est spécialisé sur la pathologie de mon fils. Et on a fait deux téléconsultations avec la pédopsychiatre, qui, normalement, au fin août, je devais aller passer les tests pour voir l'évolution de la maladie de mon fils, parce que apparemment il aurait un trouble du comportement. Alors, on ne sait pas à voir si c'est avec hyperactivité ou sans hyperactivité, mais bon, on sait que déjà, c'est avec hyperactivité. Voir si ces troubles psychiques viennent d'une trop forte anxiété ou si ça vient juste d'une psychose ou si ça vient de la schizophrénie. Donc tout ça devait être étudié. Mais grâce à l'ASE, grâce à ces institutions et à ma sœur, hein, voilà, tout est remis en cause. Il est pour lui, c'est une obligation d'avoir un suivi orthophoniste et psychologique pour son bien-être, comme une personne a besoin d'une dialyse ou comme une personne a besoin d'une chimio.
Oui, mais ça n'est pas mauvais.
Et là, il n'y a plus rien.
Et là, il n'y a plus rien.
Il n'y a plus rien.
Parce que finalement, le juge, l'ASE et votre sœur ont décrété que cet enfant... ne souffrait... Il allait très bien, d'accord.
Voilà. C'est moi qui psychote, alors que j'ai une caisse entière d'archives sur tous les examens qu'on a fait. Il a un problème du voile du palais. Pour simplifier pour tout le monde, il est à l'étape, quand vous construisez une maison, vous montez les murs et puis vous faites des trous pour les portes et fenêtres. Ben lui, sa sphère ORL, c'est ça. Donc, quand il était petit, ça coulait de partout. Quand il saigne du nez, il saigne aussi de la bouche. On dirait un geyser. Donc, ça peut faire peur. Je suis formatrice en gestes de secours. Donc, il est formé. Il sait très bien ce qu'il doit faire quand il saigne du nez. Mais après, c'est une maladie qui est très, très vicelarde parce qu'elle peut s'attaquer à tout moment à ses yeux, à ses dents, à son cœur. Il peut me faire une crise cardiaque quasiment du jour au lendemain. Donc, du coup, des troubles psychiatriques qui peuvent se développer. Il peut me faire un cancer aussi du thymus, qui est une glande. Voilà. C'est une maladie qui est très, très éclectique parce que vous pouvez avoir plein de choses et plein de différentes manière d'exprimer. Là, j'ai une dame qui habite pas très loin de chez moi, qui a sa fille de 32 ans qui a la même maladie. Sa fille a très mal vécu les confinements. Moi, il l'a très bien vécu, par contre. Voilà. Enfin, très bien vécu. C'est un grand mot, hein. Il l'a bien vécu. Mais chez moi, c'est interdit les Fortnite, les consoles. Parce que Fortnite, c'est de la violence pour moi. Tirer sur des gens, des policiers, tout ça, c'est impossible parce qu'on a de la famille qui sont dans les forces de l'ordre, notamment le parrain de mon fils. Donc, c'est pas possible. Et mon mari est un ancien gendarme. Donc, ça revient à tirer sur son parrain, sur son père. Je peux pas. C'est pas possible. Voilà. Mais... je ne sais pas comment vous expliquer. Après, on vit un calvaire, quoi. On vit un calvaire parce que personne ne veut comprendre cette maladie, alors qu'elle existe.
Elle se voit, en plus. Enfin, j'ai cru comprendre qu'il y avait quand même des épisodes... C'est un enfant dont on détecte qu'il y a un truc qui ne va pas, quand même, non ?
Non, on ne le détecte pas, en fait. Alors, moi, je vais le détecter parce qu'il y a des caractéristiques physiques chez ces enfants. Ils ont quasiment tous une petite bouche, un petit nez, des petits yeux, des petites oreilles et des oreilles mal ourlées. Donc, d'un seul coup, ben, quand vous êtes confronté à cette maladie, vous savez si l'enfant l'a ou pas en face. Mais après, physiquement parlant, je vous envoie une photo, vous allez me dire, mais c'est pas possible. Mais c'est un enfant tout à fait normal. Je veux dire, oui, avec sa particularité d'avoir ce syndrome 22q11, plus l'adolescence qui rentre aussi dedans, hein. Je ne vais pas le nier non plus. Hein. C'est, voilà. Mais c'est depuis tout petit, je le dis, j'ai 3 enfants, j'ai le grand, bah, il voit la vie en 3D, il est parti de la maison, maintenant il vit sa vie. Il voit la vie en 3D parce qu'il est dyslexique, dysorthographique et daltonien. Donc, ben voilà, hein. Ma fille qui va avoir 17 ans est une enfant précoce, avec des allergies. Ouais, je vais voir des médecins pour essayer de comprendre pourquoi mes enfants sont comme ça, pour pouvoir les aider. Et mon fils, ben, il est né avec les pouces collés, enfin, il y avait plein de problèmes. Et voilà, on a découvert malheureusement qu'il avait cette pathologie et... Et on vit avec depuis 14 ans et là, les institutions, c'est un truc de fou. Ces assistantes sociales de l'ASE, pour vous dire à quel point le rapport est mais nul, nul de chez nul, elles ont marqué que la décoration de chez moi était sommaire.
Sommaire, c'est-à-dire, enfin, comment peuvent-elles se permettre de juger de la décoration de chez vous ?
Voilà.
Non, mais voilà. Dites-moi, sommaire, ça veut dire quoi ? Ça veut rien dire, une décoration sommaire ?
Ben, je suis tout à fait d'accord avec vous, mais...
Vous avez pris un avocat sur tout ça ?
C'est lui. Alors, j'ai pris une avocate, oui, la première fois, le 8 juillet. Ben, hormis de me dire... Non, j'ai pas et tout, ben c'est tout ce que j'ai eu. Elle m'a pas défendue. Pourtant, je peux vous dire que c'était un moment horrible à passer. Là, j'ai changé d'avocate parce que j'ai fait appel à la cour d'Aix. Donc, on passe à la fin du mois. Je vous avoue aussi que l'histoire de Pauline que vous avez eue aussi a fait un petit peu écho parce que dans le sens où... Ben, comme moi, elle va chercher de l'aide et elle se fait retirer son enfant.
Oui, c'est ça.
C'est un truc de malade.
Oui.
Voilà, nous, c'est exactement la même chose. On va chercher de l'aide pour notre fils et on se fait retirer nos enfants parce que du coup, c'est un placement familial vu que c'est 2 enfants mineurs. Voilà. Donc, sans avoir de contact avec eux pendant... elle a droit à des contacts, mais moi, je n'ai pas droit de contact avec mes enfants. J'ai rien depuis le 8 juillet, j'ai pas de nouvelles de mes enfants, je sais pas comment ils vont, je sais rien. Voilà, c'est une horreur, sachant qu'ils sont à 2h15 de chez moi, hein, et que j'ai ma meilleure amie qui habite à 15 minutes de chez ma sœur. Voilà.
Et il nous reste 5 à 7 minutes. Votre sœur a joué quel rôle exactement dans tout ça ? Parce que c'est hallucinant que votre enfant se retrouve chez votre sœur, avec qui, je suppose, vous êtes en mauvais terme.
Ben alors, en fait, on n'était pas en mauvais terme. Je ne suis pas très proche de ma sœur,
oui.
Parce que c'est une personne qui est vénale. Mais bon, après, on n'avait pas non plus de rapport exécrable. Enfin, c'était juste entre guillemets, bonjour, bonsoir. Bon, ils sont venus à la maison, on a été chez eux, mais voilà, sans plus. Puis je lui ai toujours dit, je lui fais parce qu'elle a pris à 2 reprises mon fils pendant les vacances. Et je lui avais dit un jour, elle lui a fait du canyoning, il a sauté de 8 mètres de haut. Et quand il est arrivé dans l'eau, il s'est fait mal. Mais oui, mais il a un problème au niveau du squelette à cause de sa maladie. Donc il faut faire attention. Mais ma soeur, oh mais c'est pas grave. Voilà, c'est que ça. Donc, puis quand je lui disais... Surtout, ne le mets pas devant la console. Évite qu'il joue à Fortnite, qu'il fasse du FIFA. Oui, ben allez, vu qu'il aime le foot, allez hop, FIFA. Nous, on a une petite, je ne vais pas dire le nom, mais une petite consoles de jeux que j'ai craquées lors du deuxième confinement où ils peuvent jouer tout seuls ou ils peuvent jouer à la télé.
Vous pouvez dire le nom, on va en dire deux autres, comme ça il n'y aura pas de problème. Ils jouent à quoi?
Moi, ils jouaient à Mario Kart Deluxe, à FIFA et au bowling.
D'accord.
Voilà, sur la Switch.
Oui, vous savez, tous ces jeux, à moins de ne pas avoir le nez collé tout le temps dessus, c'est-à-dire une heure par jour, c'est loin d'être une catastrophe. Je veux dire, on a une époque où il y a des écrans partout maintenant. Nos enfants sont nés avec ça. Alors, il est certain que pour votre enfant, qui souffre de troubles qui peuvent... Ça peut ne pas être bon, mais pas une heure, pas, je ne sais pas, un peu dans la journée. C'est pas...
Non, mais c'est ça. Mais de toute façon, je lui ai dit, je lui disais, du moins, ce que je peux plus lui dire. Tu joues, mais si je t'entends crier parce que tu râles, parce que tu perds ou quoi que ce soit, c'est stop. Donc, quand il jouait à Mario Kart, puis en plus, c'était principalement dans le salon. Comme ça, au moins, je pouvais surveiller aussi. Quand il jouait avec sa sœur, c'était celui qui râlait, on arrêtait. Ça pouvait durer 2 minutes comme une heure, mais enfin, dès la première personne qui râlait, c'était stop. Parce que j'aime pas les consoles, donc c'est pas mon truc. Donc j'ai bien voulu faire plaisir à mes enfants, mais voilà. Et à l'heure actuelle, je vais pas dire, ils sont pas malheureux chez ma sœur et son compagnon. Ça, c'est loin de là, parce qu'il a son cousin qui vient de faire 14 ans. Donc, ils sont très proches tous les deux. Mais par contre, c'est la famille à écran. Mon neveu joue à l'ordinateur en même temps que sur la tablette, avec le téléphone à côté et tout ça. Moi, il n'y a pas. Moi, on avait installé sur les téléphones, et il a eu son téléphone il y a moins d'un an parce que pour le contrôler, sans puce. Voilà, il s'appelle Ainoa, pardon. Comment ça s'appelle? Et on avait installé une application pour qu'ils aient chacun un temps d'Internet, et puis c'est tout. Et le soir, quand on va au lit, c'est le téléphone dans la chambre à papa et maman, et on ne le touche plus. Voilà. Mais d'après cette belle institution française, on a une éducation trop rigide et trop stricte. Ah, alors je sais pas si j'en ai archaïque ou quoi, mais bon.
Ça fait combien de temps que vous n'avez pas vu votre fils, là?
Depuis le 8 juillet. Sachant que je l'ai vu 30 secondes et qu'il est venu me voir de suite et me dire « Maman, je suis désolée, j'étais pas bien, j'ai cassé la caméra parce que j'ai mordu mon téléphone ». Est-ce que c'est l'attitude d'un enfant serein?
Non, bien évidemment.
C'est moi qui psychote, vous voyez. Donc j'ai pu l'avoir là, où j'ai vu qu'il était plus grand que moi. Voilà. Mais depuis le 8 juillet, je n'ai pas vu mes enfants. Et je n'ai pas eu le droit, à la fin de l'audience, j'ai demandé au juge, à la juge, si je pouvais leur dire au revoir. Et là, elle m'a répondu avec un ton ignoble. « Ah, mais certainement pas, madame, mais vous croyez pas que vous allez leur faire un câlin ?»
Mais qu'est-ce que c'est que ça?
Alors là, je suis en train de préparer ma défense, je peux pas trop en dire.
C'est le juge qui parle comme ça, c'est fou.
C'est une horreur.
C'est fou de parler à une mère comme ça, c'est fou.
J'ai perdu 11 kilos la première semaine. Parce que forcément, je suis en dépression totale, voilà. Que mes enfants fassent leur vie, c'est normal. Le grand, on était très fusionnel. On avait la même passion comme avec son père, qui est le rugby. On avait la même passion. Il est parti, ça a été dur, mais c'était normal. C'était pour les études, c'était pour sa vie. Donc forcément, puis on fait pas des enfants pour soi, on se les garde pas. Mais là, de nous les enlever comme ça, parce que nous, on le prend comme un enlèvement.
Oui.
Parce que pour moi, ce n'est pas un autre mot, c'est un enlèvement. Et en plus, la complicité de ma famille, Ben là, je dis à mon mari, pour moi, c'est très compliqué parce que c'est double peine pour moi, double sanction, même triple, parce que je m'en suis pris plein la tronche par la juge, je m'en prends plein la tronche par ma famille et je peux plus voir mes enfants.
Et, voilà. Et on ne vous dit pas quand vous allez récupérer même votre fille?
Ah non, 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 non. Et nous, on se pose la question.
Quel âge a-t-elle? Rappelez-moi, quel âge a-t-elle?
Elle aura 17 ans le 12 octobre.
Bon, de toute façon, ils ne pourront pas, sur votre fille, vous en mettez encore plus d'un an, puisqu'à 18 ans, elle pourra partir et vous rejoindre. Mais c'est,
Oui, mais bon, ils lui ont tellement remonté la tête. Elles m'ont, pendant le jugement, elles ont tellement dit que j'avais forcé ma fille à faire la filière qu'elle faisait alors qu'elle voulait faire de l'esthétisme, qu'à la rentrée prochaine, elle serait dans l'esthétisme. Et ben, sans le vouloir... On sait qu'elle est, qu'elle refait sa, enfin qu'elle fait sa terminale dans la même filière qu'elle l'était. Donc c'est des personnes qui ont monté la tête à ma fille, qui ont déformé toute la vérité. Et il faut que ça s'arrête parce que je suis pas la seule. Moi dans l'histoire, ce qui me fait très peur, c'est que du coup, ben j'ai perdu le contact avec ma fille. Enfin avec mon mari, on a perdu la relation qu'on avait avec notre fille. Est-ce qu'on va pouvoir la retrouver? On ne sait pas. Là, notre fils, je sais qu'on pourra le retrouver parce que c'est une âme pure, comme je vous disais, un cœur pur. Mais est-ce qu'on va pouvoir le soigner à temps, le sortir à temps de cet enfer, de pouvoir le essayer de contrecarrer cette maladie un peu? Voilà, on ne sait pas. On ne sait pas. Moi, à l'heure actuelle, je ne sais plus où je suis. Alors, je ne voulais pas médiatiser avant l'audience, avant la cour d'appel, mais là, j'en peux plus. Et je demande de l'aide à des associations pour qu'on m'aide. Et je veux que cette maladie soit reconnue et qu'on en parle un petit peu. C'est l'association Génération 22, qui traite donc du 22Q11. Et j'ai la lettre de la présidente qui trouve mon histoire... incroyable et complètement folle, démesurée, tout ce qu'on veut, tous les termes qu'on peut trouver pour qualifier, et qui me soutient. Mais le problème, c'est que qu'est-ce que vous voulez faire quand les institutions et la justice française veulent taper sur les mères et couper le lien maternel qu'il y a avec leurs enfants et faire cette chasse aux sorcières aux mères, en fait. C'est ce qui se passe actuellement. Hein. Il ne faut pas se voiler la face. Hein.
Écoutez, vous nous tiendrez au courant, Céline, parce que ça paraît...
Oui, je vous rappellerai après.
Ça paraît tellement, encore une fois, énorme.
Oui.
On entend des choses hallucinantes, mais comment est-ce possible? Sophia nous dit au 3921 qu'elle vous embrasse très fort.
Merci,
c'est
Sophia.
Fou cette histoire, de quoi s'est mêlée la ZEE, ça fait peur quand même, plein de bonnes choses à voir pour votre intervenante, son mari et leur fils et leur fille, vous dit Jérôme.
Merci.
C'est dans ces histoires, c'est-à-dire que, bon alors il ne peut en être autrement, mais on a à chaque fois des parents qui nous relatent
quasiment les mêmes faits.
Oui, l'attitude de juge qui dépasse leur fonction en étant très méprisant, très... Un juge n'a pas besoin d'être méprisant. Un juge est là pour juger, appliquer la loi, en tout cas celle qu'il pense être... appliquer la loi à travers la décision qu'il va prendre, mais pas vous dire... Parce que vous croyez que vous allez leur faire un câlin. Enfin, c'est horrible. C'est une femme qui vous a dit ça en plus.
Oui, oui, oui. Mais surtout qu'en plus, on nous accuse de choses où il n'y a aucune preuve. On nous dit qu'on a maltraité nos enfants, qu'on les a tapés, que tout ça, mais il n'y a aucune trace. Forcément, il n'y a aucune trace vu qu'on ne l'a pas fait. Donc, comment voulez-vous trouver des preuves de choses qu'on vous accuse alors que vous ne les avez pas faites? Moi, si quelqu'un a la solution, qu'on me la donne.
Bien sûr.
C'est, C'est terrible et c'est pour ça que je vous disais en début, vous voyez, l'handicap n'est pas forcément reconnu. Et j'engage, enfin, j'aimerais bien que tous les auditeurs regardent ce que c'est que le 22Q11. C'est facile à retenir comme terme. Ça s'appelle aussi le syndrome Digeorge par le docteur qui a découvert la maladie en 1960. Et le mot scientifique, normalement, c'est microdélétion du chromosome 22. Mais donc, du coup, 22Q11, ça se retient facilement. Et je vous engage à aller voir sur Internet ce que c'est. Là, le 22 octobre, Génération 22 fait son colloque, comme chaque année, et parle de tout ce qui se passe. Et je sais que cette année, je suis du coup un sujet de débat. Parce que c'est pas normal qu'on fasse ça à des enfants, quoi. Quand il n'y a rien. Qu'on embête les enfants handicapés, qu'on leur fasse ça et couper le lien avec, même s'il a pas, si mon enfant n'avait pas d'handicap, mais couper le lien comme ça avec une famille aimante, c'est un truc de malade. C'est un truc de malade. J'ai l'impression d'être dans un cauchemar et tous les jours, je suis dans un cauchemar. Je me dis, est-ce que je vais me réveiller ou pas, quoi. Mais voilà. Donc, c'est pour ça que ce soir, je voulais témoigner et dire que faites attention, tous les parents qui ont un enfant handicapé maintenant. Justifiez tout ce que vous faites, toutes vos actions. Gardez bien toutes les preuves. Parce que si un jour, vous tombez comme moi, avec un collège qui ne veut pas comprendre, un collège ou une école, n'importe quoi, qui ne veut pas comprendre la maladie de votre enfant, au moins, vous pourrez montrer qu'il y a tout ça. Et faites tout certifier, faites tout des copies en double, en triple, en quadruple, autant que vous voulez, et gardez vraiment tout, tout, tout. Mais la moindre petite chose. Voilà.
Merci Céline pour votre témoignage sur l'antenne d'Europe 1 ce soir. Ne manquez pas de nous tenir au courant.
Hein, oui, je vous recontacterai. J'essaierai de vous recontacter après l'appel, en espérant qu'il soit favorable. Mais bon, je vais vous dire franchement, j'ai très peu de chance malheureusement.
D'espoir. C'est tout ce qu'on vous souhaite en tout cas.
Merci beaucoup de m'avoir reçu.
Je vous en prie, portez-vous bien.
Merci Olivier.
0h49 sur Europe 1, le temps d'accueillir Michel au 39-21. Bonsoir Michel.
Oui, bonsoir Olivier. Bonsoir. Quel plaisir de vous entendre.
Ah, merci beaucoup, vous êtes gentil.
Je suis très contente de vous entendre. Alors moi je suis native des Flandres françaises.
Des Flandres françaises, d'accord.
Oui, j'insiste parce que les Français, quand je leur dis « oui, je suis des Flandres », ils me regardent par deux fois et ils se demandent d'où je viens.
D'accord.
Alors que les Flandres françaises, c'est connu.
Oui, c'est connu. Quelle ville pour que celles et ceux qui...
Moi, je suis née à Bayeul, près de la Belgique.
D'accord, à Bayeul.
Mais je suis absolument française.
D'accord, très bien. De quoi voulez-vous nous parler, Michel?
Alors, moi, je vous parle des ennuis des personnes âgées. Bon, je vais tout de suite vous expliquer ce qui m'est arrivé. J'ai été chercher un ticket de train et au bout de quelques moments, au bout de quelques minutes, le gars m'a dit « À votre âge, faut... » Oh, écoutez, j'ai tellement été choquée. « À votre âge, faut laisser la place. » Je ne sais pas ce que ça veut dire.
Oh,
ça veut dire que
ce
les personnes
soir, c'est la libre, c'est la libre antenne du.
Comment?
Je dis, il y a des cours d'éducation, d'instruction civique qui devraient être réinstaurés pour les plus grands là, parce que là, ce soir, c'est quand même le bouquet.
Oui, ça fait beaucoup. Hein.
Ah mais oui, bien sûr.
J'ai trouvé que la dame, la dernière, qui supporte tant de souffrances. Au lieu d'être aidé, ah non, on ne l'aide pas, on l'enfonce. C'est incroyable, ça.
Complètement, complètement. C'est fou.
Ah oui. Oui, alors j'appelais surtout pour la solitude des personnes âgées.
Oui.
Parce que Moi, j'ai ma fille qui habite très proche de chez moi et je ne suis pas invitée. Je ne sais pas si je peux aller chez elle, je ne sais pas, alors que j'ai deux petites filles de 8 ans et de 12 ans. Surtout celle de 8 ans, je l'aime beaucoup et il n'y a pas moyen de la voir. Enfin, ce n'est pas seulement ça, c'est parce qu'il y a une réunion familiale. Ma fille, c'est un mariage et je revois 2 ans après des personnes qui m'ont fait beaucoup de mal, en particulier mon frère, au moment de l'héritage. J'ai eu plein, il appelait au téléphone, il hurlait au téléphone. Voilà, et j'ai peur de voir toutes ces personnes. Voilà.
Et elles ne veulent plus vous voir, ces personnes ?
Pardon ?
Elles ne veulent plus vous voir, ces personnes ?
Oh, je ne sais pas, parce que j'ai un frère qui a... comment je vais dire ? Je me suis occupée de papa parce que je ne voulais pas le mettre en EHPAD. Et mon frère, pendant ce temps-là... avait une deuxième épouse et il allait, il avait le droit hein, d'aller à droite, à gauche, dans les grands hôtels. Et il disait à mon père, si tu n'es pas content, enfin bref, il le mettait contre moi. Et j'ai pas adoré ça parce que, enfin, je rendais service parce que je voulais garder papa avec mon mari. Et mon frère, quand il arrivait, il racontait des tas de choses sur mon mari et moi, voilà. Et mon père était complètement perdu. À 92 ans, 93 ans, oui. Mon père se demandait ce qui se passait. Non, ce qu'il y a encore une fois, c'est d'un côté, on essaye de faire du bien, et de l'autre, eh ben, l'autre personne, voilà. C'est un peu partout pareil, quoi.
Et en fait, vous voyez qui maintenant de votre famille ?
Pardon ?
Qui voyez-vous de votre famille maintenant ?
J'entends pas bien.
Qui voyez-vous de votre famille maintenant ?
Ah ben, je vois quand même ma fille de temps en temps.
D'accord.
Ça se passe plus ou moins bien parce que ma fille est quelqu'un de, c'est pas bipolaire, mais elle a un caractère très spécial, elle est violente et j'en ai peur quelquefois. Mais j'arrive à maintenir le lien quand même. Mais ce qui me fait peur, c'est de revoir tout ce tableau familial que je n'ai pas envie de voir, mais du tout.
Oui.
J'aimerais être loin. Ma fille se marie. Je ne peux pas dire je ne vais pas être là.
Et elle se marie quand, votre fille ?
Le 15 octobre.
D'accord.
Et ce qu'il y a, c'est que j'ai fait une chute, donc je marche difficilement. Et si vous voulez, j'aimerais tant qu'on me dise « Mais Michel, on vient te chercher, ne sois pas soucieuse, on va t'aider à marcher. » Et puis aussi, c'est la mairie de Lille est immense. Alors je me vois mal marcher, j'ai peur de tomber, j'ai peur de plein de choses. Enfin, je suis angoissée, quoi, c'est tout.
Oui,
et
oui,
j'ai perdu
oui.
mon mari il y a 2 ans et demi. Après 50 ans ensemble. Donc c'est pas évident.
Bien sûr.
Je comprends tous ces gens qui souffrent, hein, qui sont passés avant moi. En particulier Martine, qui s'est fait frapper par 4 messieurs. Là, Olivier, j'en suis... Je comprends pas. Hein.
Oui, c'est maintenant, c'est... On entend des choses comme ça.
Je comprends pas que des messieurs qui s'attaquaient à une femme sans défense.
Oh, c'était,
je comprends
ouais.
pas ça du tout. Hein.
Ça devait être vraiment des gens qui n'avaient pas grand-chose dans la tête.
Oh non, mais c'est pas... Je trouve que notre société est bizarre maintenant. Et je pense, j'ai quand même 77 ans, et j'ai vécu des heures beaucoup plus belles. Les gens étaient entre eux, les gens quand même, y avait un certain maintien. Je ne sais pas maintenant qu'est-ce qui se passe. Olivier, je ne sais pas, mais les gens ne sont plus les mêmes. Ils ont peur, je pense. Vous avez très bien dit tout à l'heure, les gens ont peur.
Oui.
Et la peur est très mauvaise conseillère. Hein.
Les gens ont peur de l'autre, en fait, parce qu'ils ne le connaissent pas. Et tout à coup, il devient comme un ennemi, comme quelqu'un...
Oui, mais j'ai l'impression que c'est un peu comme la comment je vais dire, notre pays devient comme la jungle.
Un peu, vous avez raison.
Oui, je trouve que c'est un peu la jungle. C'est-à-dire que quand, moi, d'après ce que j'ai entendu dire, quand un animal est blessé, les autres se jettent sur lui. Je parle de la jungle.
Oui, vous avez raison de faire ce comparatif.
Maintenant, c'est pareil.
C'est un peu la même chose. Il ne faut pas céder à la peur, hein, bien évidemment.
Oui, voilà, absolument. Je crois que vous avez dit très justement, il faut marcher la tête levée.
Oui, et puis il ne faut pas...
Vous avez dit une chose, Olivier.
Oui.
Vous ne dites pas que des bosses... je me suis souvenu de ça, parce que vous aviez dit, il ne faut pas être une victime, il faut être un combattant. Et ça, j'ai trouvé que c'était une phrase très, très belle. Je la sors très souvent, cette phrase.
Oui, il faut éviter d'être une victime. Il faut être sûr de ses droits, sans mépriser l'autre, sans être condescendant, sans.
Parce que voilà. Moi, je suis allée pour un test d'audition, hein, dans un centre. Je suis allée. Il y avait deux dames. Il y a une dame qui m'a regardée, mais avec un mépris. Incroyable. Parce que j'ai un pied qui est un peu déformé. Donc, j'ai plus les chaussures que j'avais avant. Elle a fixé mes chaussures et puis regardé de haut en bas. J'avais envie de partir, mais bon, je me suis dit non, ne lui laisse pas ce plaisir. Reste et regarde-la dans les yeux.
Mais vous avez bien fait. Vous avez bien fait. Et ce qu'il faut, c'est ne pas avoir peur des autres et ne pas oublier qu'il y a quand même beaucoup de gens aussi qui sont bien élevés, qui ont des valeurs, qui ont de l'éducation.
Parce que
finalement, on remarque toujours et on va fixer peut-être plus notre attention sur celles et ceux qui se comportent mal. Vous voyez ? Et on en oublie de regarder autour de nous qu'il y a beaucoup de gens qui sont paisibles, dociles, bien élevés. Et on ne cherche pas le regard de ces gens-là quand on est, comme Martine tout à l'heure nous expliquait, entouré de quatre personnes qui l'agressent verbalement. Ils ne l'ont pas tapé, hein, ils l'ont agressé verbalement.
Je n'en reviens pas. Hein.
Oui.
Je n'en reviens pas, surtout une chose, que personne ne s'est interposé. C'est surtout ça que je ne comprends pas. Personne ne s'est interposé.
Oui.
Personne.
En tout cas, vous restez vraiment pareil, la tête haute, hein, Michel.
Oui, tout à fait. Oui.
Et puis,
je vous remercie. Et il y a une chose que je voulais vous dire.
Dites-moi.
Mais ça, je vais dire rapidement. Vous avez souvent un jeune homme qui travaille en pharmacie et qui est malade d'alcoolisme.
Oui, oui. Anthony.
Vous vous souvenez de lui.
Anthony.
Moi, je suis une ancienne malade alcoolique. Et sans une association, je ne m'en serais pas sortie.
Oui.
Ce que je veux dire, c'est qu'on a besoin des autres. Absolument.
Oui, on ne s'en sort jamais tout seul, c'est impossible. En tout cas, c'est très rare. Merci, Michel. Et puis, n'hésitez pas à me rappeler. Hein. Vous savez, vous connaissez le chemin, Michel.
Et si vous pouvez me donner mon numéro de téléphone à ce jeune homme, enfin, je ne sais pas s'il est à l'écoute, j'en sais rien.
Mais si, on le lui donnera, si vous voulez. D'accord.
Ce serait avec plaisir que si je peux l'aider, j'en sais rien.
Merci.
Vous remercie beaucoup,
merci
Olivier.
Merci beaucoup, Michel. Et puis n'hésitez pas à nous rappeler, d'accord ?
On
vous embrasse bien fort.
Bonne soirée. Au revoir.
Au revoir. Chers amis, c'est la fin de votre Libre Antenne. Demain soir, à partir de 23h, toute l'équipe de Yann Moix vous accueillera pour le week-end et pour votre Libre Antenne du week-end. Quant à nous, eh bien, nous allons aller vaquer à d'autres occupations. Mais nous penserons à vous. Prenez soin de vous, respirez. N'oubliez pas de vous offrir des moments pour vous. Pensez à vous. Ayez conscience que d'abord, vous pouvez passer bon nombre de fois dans la journée pour vous. En premier. On vous aime, on vous embrasse et puis on vous dit à lundi. Salut.